intitulé de mon intervention, c'était en fait l'islamophobie comme un phénomène majeur, comme un axe majeur de la contre-révolution coloniale. Alors généralement, on dit de nous qu'on est la marge, qu'on est la périphérie, mais là, je voulais d'abord, premièrement, faire d'abord le récit d'une grande révolution qui a changé une grande partie des rapports au monde. On parle beaucoup de la révolution d'octobre, on parle de la révolution française, mais on parle rarement de la révolution anticoloniale. Et cette révolution anticoloniale, elle était d'une importance capitale parce que c'est à partir du fait colonial que le rapport à l'islam et aux musulmans a été structuré dans la République. Donc je vais d'abord partir d'un fait structurel dans le rapport de la République aux musulmans et à l'islam. C'est le contrôle de l'islam a été une constante de la politique française. Je dirais depuis l'intervention de Napoléon Bonaparte en Égypte jusqu'à maintenant, que ce soit sur le plan hexagonal et sur le plan en fait des colonies. Donc, c'est ce qui fait que la République ne peut concevoir ses relations avec les communautés musulmanes que sous la forme d'un rapport hiérarchisé, pas similaire, mais d'une manière sous des formes renouvelées et complexes aux colonies. De plus, l'islam en France n'est pas une croyance comme les autres, mais c'est un fait culturel qui bouscule d'une manière importante, en fait, les implicites de la nation française, de la République française. Pourquoi ? Parce que dès le début, dans la période coloniale, l'islam n'a pas été perçu comme l'antithèse de la chrétienté, mais comme l'antithèse de la modernité, de l'état moderne. Et en cela, son contrôle, elle était importante. Donc, j'ai dit que je vais faire quand même d'abord le récit de nos luttes qui ont changé le monde et qui le transforment. Et sur cela, pour moi, en fait, depuis 3 décennies ou 4 décennies, le retour, en fait, de l'islamophobie comme outil, situe aussi une réponse aux avancées et aux poussées anticolonialistes des Dalits de la Terre et Moustadraf en Afrique. Je vais commencer, puisque c'est le 55e anniversaire de la mort de Frantz Fanon, par une citation d'une lettre qu'a envoyée Frantz Fanon à l'époque à Ali Shariati, un penseur musulman majeur du mouvement iranien. Il dit ceci: l'islam a pris les devants en Asie et en Afrique dans la lutte contre le colonialisme et l'Occident. Pourquoi ? Parce qu'il a été la cible dans les deux continents des campagnes du colonialisme et de l'Occident. J'en donne 3 ou 4 exemples. La résistance au colonialisme était d'abord apprise aussi dans certains contrées, s'y appuyer sur le référentiel musulman. Chamil dans le Caucase, Abdelkrim Khtabi dans le Rif, le martyr Omar al-Mukhtar en Libye, Azdin al-Qassam lors de la révolte de 36 en Palestine, et on a une foultitude d'exemples en Irak et ailleurs. Donc, je disais que la question du contrôle de l'islam, et pour contrôler l'islam et les musulmans, d'abord, première des choses, il faut saper les fondements matériels qui leur permettent l'autonomie de la gestion de leur culte. Comment ? La confiscation des biens morts, c'est-à-dire l'ahbas. Ça, c'est la première des choses. Et c'est pour cette raison que les réformistes musulmans en Algérie, à leur tête Ibn Badis, d'autres, ils réclamaient, la première des choses qu'ils réclamaient, la restitution des biens de main morte, parce que c'était un outil important pour une gestion autonome de leur culte. Je rappelle que dans la période précoloniale, la gestion du culte était une affaire, mis à part une ou deux mosquées, Qaraouin, Zaytouna, Al-Azhar et autres, c'était quelque chose qui a été... parce que l'État ne pénétrait pas la société comme le pénètre maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'État civil, il n'y avait pas de frontières de cette manière. Donc c'était quelque chose qui était d'une manière autonome. Ijtihad, ça se faisait au jour le jour. On n'avait pas besoin de police partout, on n'avait pas besoin de gendarmes partout, on n'avait pas besoin de murs partout. Donc il n'y avait pas ce contrôle. Dans le cas de l'Algérie, l'Empire ottoman, c'était 15 000 personnes. 15 000 personnes, c'était impossible d'assurer le contrôle d'un territoire aussi vaste que l'Algérie. Je peux dire la même chose qu'au Maroc, même si l'après, s'est matérialisé d'une autre manière. Donc je dis, ça paie. Deuxième chose, c'est la question du contrôle étatique de l'islam et du musulman. Il y a un phénomène de fonctionnalisation des imams, il faut les contrôler, il faut contrôler les mosquées, il faut contrôler les prêches. Et c'est pour cette raison qu'une des revendications qu'on pourrait reprendre aujourd'hui, c'est pour cette raison que les luttes d'hier sont un outil aussi pour nous aujourd'hui, c'est la liberté des prêches dans les mosquées. C'est-à-dire la fin de la tutelle de l'institution coloniale sur les mosquées. C'était une demande. Et ils demandaient plus ou moins, parce que la laïcité dans une période coloniale, comme on l'a vu maintenant, mais sous d'autres formes, était un outil de contrôle politique sur les musulmans. C'était déjà le cas, que ce soit l'islam instrumentalisé à des fins, à des options politiques des colonisateurs, ou parfois ça peut être dans la volonté d'utiliser l'islam contre lui-même, si j'ose dire. Donc, il va se passer des défaites énormes. Je rappelle la défaite de Diane Bienfou. Elle a ébranlé la République. La défaite en Algérie, en Cameroun et dans d'autres endroits, c'est quelque chose qui a fait que la France a été en crise. Et cette crise, pour pouvoir la résoudre, il y avait un coup d'État en France. Le général de Gaulle, on en parle beaucoup comme le général, d'ailleurs le général, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui assure les frontières physiques, mais assure aussi des frontières aussi internes à l'Empire, c'est-à-dire une sorte d'infériorité, une hiérarchie en fait statutaire. Toujours, je vais quand même le citer parce que c'est important, il le disait en 59, c'est-à-dire un an après avoir pris le pouvoir, c'est-à-dire la France était en crise. Une double crise. Premièrement, la France a été reléguée à un second plan par rapport à l'échelle impériale mondiale. Les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique vont devenir des acteurs majeurs et la France un acteur mineur, comme la Grande-Bretagne d'ailleurs. Ce sont les deux perdants de ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle la seconde guerre inter-européenne, ce qui est appelé la seconde guerre mondiale en fait. C'était beaucoup plus une guerre civile européenne. Alors, quand il va arriver au pouvoir pour résoudre cette crise-là, parce que c'est une crise énorme qui touche les institutions, d'ailleurs ça va donner naissance à la 5e République, qu'est-ce qu'il va dire? C'est important de l'entendre parler des musulmans à l'époque. C'est très bien qu'il y ait des musulmans jaunes, des musulmans noirs, des Français jaunes, des Français noirs, des Français noirs. C'est-à-dire, on veut être égoïste aussi. Hein. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition, très important ça, à condition qu'il reste une petite minorité. Être à la marge, être à la périphérie. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Qu'on ne se raconte pas d'histoire. Les musulmans, vous êtes allés les voir, vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas, vous voyez bien que ne sont pas des Français. Ceux qui prennent l'intégration et une cervelle de colibri, même s'ils sont très savants, essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre, agitez la bouteille, au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans, qui demain seront 20 millions, et après, demain, 40, la panique démographique dont on a entendu parler lors de la primaire de la droite. Si nous faisons l'intégration, si tous les Arabes et les Berbères d'Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcherez-vous de venir s'installer en métropole, alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé? Mon village ne s'appellerait plus Colombey des deux églises, mais Colombey des deux mosquées. Général de Gaulle, le 5 mars 59. En 62, la mort dans l'âme, c'est-à-dire malgré les putschistes, malgré l'OS, de Gaulle, il est obligé de se rendre compte qu'il y a une défaite, qu'il ne peut plus assurer le contrôle de l'Algérie. Et il est obligé de vouloir, toute cette période, c'était une volonté, comment on doit perpétuer les relations coloniales sur une autre base. Comment faire pour qu'on ne perde pas les richesses qui sont littéralement pillées littéralement. Donc il va y avoir une nouvelle configuration parce que la poussée anticoloniale va continuer. La défaite de l'impérialisme américain en 1975, la révolution iranienne en 1979, je dirais même la révolution nicaraguayenne en 79 aussi, et puis l'arrivée, il va y avoir un double tournant, un tournant libéral, néolibéral, et un tournant contre-révolutionnaire. Comment ça va se matérialiser? Un, l'arrivée au pouvoir de Reagan, de Thatcher, une nouvelle, l'invasion de Grenade. En 82, il va y avoir les grandes grèves de Talbot, des Citroën, à Aulnay-sous-Bois et à Poissy. Comment ça va être interprété par le nouveau gouvernement socialiste? Dans les années 62, on aurait parlé d'une lutte de classe, d'une mobilisation sociale pour les droits des travailleurs. Eh bien non, on va parler d'une grève chiite. D'une grève dirigée par les intégristes, ça c'est Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur, parce que en fait l'incarnation de la répression, vous pouvez aller de Cazeneuve jusqu'à Gaston Defferre, c'est toujours une constante à chaque fois. Donc une grève chiite, une grève des intégristes, eh ben on va réinterpréter, on va resémantiser en fait une grève qui a été considérée comme sociale ou, à la rigueur, pour les droits des travailleurs immigrés, par une nouvelle, un regard qui va porter non sur les luttes pour un meilleur salaire, pour de nouvelles conditions contre le patronat, mais comme quelque chose de téléguidé, même par l'Iran à l'époque. Il va y avoir, un an et deux ans après, il va y avoir la marche de l'égalité et contre le racisme, et c'est une marche qui est importante. Parce que pour la première fois, ça va matérialiser des luttes qui vont prendre la perspective, non seulement de changer nos pays d'origine, comme ça a été le cas à un certain moment par tous les mouvements de l'immigration de l'époque, c'était il faut faire la révolution, il faut soutenir la révolution dans le monde arabe, en Afrique, défendre l'indépendance de la Martinique, de la Guadeloupe, mais vouloir changer la France au sein même de l'Hexagone, ça va se faire au début, ça veut dire à travers les mondes de l'égalité et de la citoyenneté dans le cadre normatif de la République. Mais il va se passer comme une césure importante dans la manière, ça va être géré, ça va être mobilisé, le discours hégémonique de l'époque. Il y a d'une part les parents, c'est-à-dire le phénomène de la séparation cher au colonialisme. Il faut séparer, d'une part, les parents attachés à leurs croyances archaïques, notamment, entre autres, les grévistes de Poissy et de Citroën, et de l'autre part, les beurs qui sont intégrables parce qu'ils vont, chemin faisant, se développer et évoluer, et ils vont finir par sortir de leurs croyances barbares et décivilisés. Donc ça va, il faut que j'aille rapidement. Et donc, en fait, donc, ça va se mobiliser rapidement tout un discours, toute une idéologie de contrôle social des musulmans qui luttent pour leur dignité au sein même de l'Hexagone. Ça va prendre la forme, entre autres, le ministre de l'époque va interner des musulmans. Entre autres, l'armée Shkat, c'est-à-dire il va les interner dans l'aile. Un autre ministre va interdire momentanément à Tariq Ramadan de venir en France pour, c'est en 1995, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, c'est ça, brièvement, c'est Jean-Louis Debré. Et voilà, c'est Jean-Louis Debré qui va vous interdire.
Tu fais partie des renseignements.
Je me suis renseigné.
Mais tu dis l'histoire.
Voilà, c'est ça. Et donc, je disais qu'il va y avoir toute une... C'est-à-dire qu'il va y avoir... Le référentiel musulman va devenir important dans les mobilisations pour la Palestine à la faveur de la deuxième intifada. J'ai vécu ce moment-là où j'ai vu le basculement à la fin des années 90 et à partir des années 2000. Comment le référentiel musulman va devenir de plus en plus important. Les mosquées vont appeler aux manifestations pour soutenir la deuxième intifada. Donc, il y a un phénomène majeur. Ce phénomène, c'est qu'il y a de plus en plus de mosquées. Il y a de plus en plus de bas. Il y a de plus en plus de hijab sous toutes ses formes. Donc c'est une transformation majeure de la société française sous nos yeux. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire c'est un fait culturel, mais aussi politique. C'est la défaite de la beurisation, en fait, de l'immigration. C'est la défaite de cette volonté de séparer les modernes des non-modernes. C'est-à-dire, nous sommes collectivement, et c'est ça ce qui fait peur à la République. La République adore l'individu atomisé, qui est détaché de sa communauté, qui n'est pas un être collectif. Eh bien, nous, il faut une reconnaissance collective de nos droits. Et c'est en cela que le bousculement de la République, y compris dans ses institutions, ça doit être aussi un objectif stratégique. Puisque malheureusement, je n'ai pas le temps, donc il y a une dimension entre guillemets impériale, c'est-à-dire parce qu'il y a trois phénomènes dans les années 80, la chute du mur de Berlin, la dislocation du bloc soviétique et l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. C'est très important parce que ça va s'imposer toutes. Et donc, du coup, on aura besoin, Mohamed Al-Jabri, qui est un penseur, qui a travaillé sur ces questions-là, il disait. Au début, c'était le péril rouge. On a à un certain moment parlé des périls jaunes. Et bien maintenant, on va parler du péril vert. Mais par contre, l'énonciateur ne parle pas de son propre péril pour l'humanité, à savoir le péril blanc. C'est quelque chose qui est resté caché. C'est quelque chose qui est considéré comme universel, qui ne se discute absolument pas. Donc il va y avoir toute une guerre en Irak, en Afghanistan, et dans d'autres endroits, mais que l'impérialisme va subir quand même des défaites énormes. La défaite d'Israël au Liban, la défaite des États-Unis en Afghanistan, sa défaite en Irak, qui va l'obliger à contourner sa stratégie d'une occupation directe de pays par d'autres pays, notamment en fait aider des États plus ou moins fantômes. Et donc, toute cette instabilité, parce qu'on vit dans un monde instable, cette instabilité, elle est aussi le fruit de nos résistances et du fait qu'on change le monde. Et c'est pour cette raison que j'ai du mal avec tous les récits sur la marge, sur les périphéries, parce que nous sommes la majorité du monde. Les damnés de la Terre représentent 3/4/5 de l'humanité. Ce qui ne veut pas dire que c'est suffisant pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Nos objectifs, on les atteindra en construisant nos propres organisations, en tissant des liens de solidarité, d'entraide, parce que c'est fondamental pour nous, comme l'a dit Tariq Ramadan, avec les communautés noires, avec les communautés latino aussi, avec toutes les communautés qui sont méprisées et infériorisées. Et troisième élément, c'est créer des espaces, de créer des majorités au sein même des métropoles coloniales pour défaire l'ordre qui nous stigmatise, qui nous infériorise, et contre lequel on lutte, mais notre lutte ne pourra réussir que si on le bouscule de fond en comble, de haut en bas et de bas en haut. Dans ce cas-là, ça va.